la poésie est l'adversaire de la pensée conceptuelle, dans la mesure où celle-ci, en se refermant sur elle-même, nous cache la réalité immédiate et pleine dont nous avons besoin et dont la poésie se souvient. Mais les mathématiques ne sont pas de la pensée conceptuelle. C'est un langage qui explore sa profondeur avec tous les moyens possibles et qui constitue des sortes de présences quasiment personnelles. La théorie des groupes, la théorie des ensembles, ce sont des êtres comme nous. Et nous pouvons avoir avec ces êtres-là un rapport de sympathie, d'amitié. Voilà, c'est le point de départ d'une réponse, je m'arrêterai là. Je pense que j'ai compris mieux, plus clairement, ce que j'avais en esprit dès le début. Mon travail de réflexion à travers les années a été pour élucider, expliciter des sortes d'intuitions que j'ai eues de toujours. On ne change pas, on est toujours le même être et dans ces conditions, il n'y a pas eu pour moi d'événements poétiques bouleversants, non. Ça a toujours été la même sorte de pensée.
Oui, par l'enfant, et par ces quelques mots que j'ai sauvés pour une bouche enfante. Vois, le serpent, du fond de ce jardin, ne quitte guère l'ombre fade du buis. Tous ses désirs sont de silence et de sommeil parmi les pierres. La douleur de nommer parmi les choses finira. C'est déjà musique dans l'épaule. Musique dans le bras qui la protège, parole sur des lèvres réconciliées. Oui, par les mots, quelques mots. Et d'une main, certes, lever le fouet, injurier le sens, précipiter tout le charroi d'images dans les pierres. De l'autre, plus profonde, retenir. Car celui qui ne sait le droit d'un rêve simple, qui demande à relever le sens, à apaiser le visage sanglant, à colorer la parole blessée d'une lumière, celui-là serait-il presque un dieu à créer presque une terre, manque de compassion, n'accède pas au vrai qui n'est qu'une confiance, ne sent pas dans son désir crispé sur sa différence, la dérive majeure de la nuée, il veut bâtir, ne serait-ce exténué qu'une trace de foudre, pour préserver dans l'orgueil le néant de quelque forme, et c'est rêver cela encore, mais sans bonheur, sans avoir su atteindre à la terre brève. Non, ne démembre pas, mais délivre et rassure. Écrire une violence, mais pour la paix qui a saveur d'eau pure, que la beauté, car ce mot a un sens, malgré la mort, fasse œuvre de rassemblement de nos montagnes pour l'eau d'été étroite, et l'appel dans l'herbe, prenne la main de l'eau à travers les routes, conduise l'eau d'ici, minime, au fleuve clair.
La poésie, ou disons plutôt le poème, ont été alors caractérisés comme l'emploi des mots qui se plient non seulement à l'intention signifiante, mais à des règles qui leur imposent des formes. On remarquait que des accents donnent relief dans les mots à certaines syllabes aux dépens d'autres, on comptait ces accents, on prenait conscience de la structure formelle que constituait un nombre bien défini d'entre eux, se présentant de façon suivie. On appelait vers la séquence de mots qui prenait fin quand ce nombre était atteint,
après quoi un léger suspens de la voix ou le passage à la ligne, dans le cas d'un poème écrit, montrait qu'on revenait au point d'origine ou, de façon plus ou moins consciente, on recommencerait à entendre se déployer la forme première, décider la règle du cas présent. Forme de 5 ou 6 accents, de 5 ou 6 pieds souvent, forme imprimée dans la parole et lui imposant ce retournement sur soi que dit bien le mot « ver » lui-même, puisque le latin « versus » signifiait à l'origine le mouvement qui fait tourner la charrue parvenue au bout du sillon. Le ver, essentiellement une forme, et les autres règles n'étant que pour confirmer cette forme et en faciliter la réception par l'auditeur ou par le lecteur. La rime, par exemple, qui, en reliant entre eux 2 vers successifs, accroît la conviction que vont s'en produire d'autres encore. Ou la structure strophique, un groupe de vers et de rimes, décidé lui aussi constant, ce qui redouble la primauté du formel dans cette parole et sa capacité de se distinguer de la prose. Car celle-ci, la prose, n'est jamais tout à fait dépourvue d'aspect formel, ce qui fut vite compris. Par exemple, il peut y avoir dans une pensée des insistances qui se marqueront dans le discours qu'il énonce, par des répétitions de mots qui retiendront l'attention, et ce sera là une forme. Ou bien, avec des voyelles et des consonnes, on aura voulu imiter tel contour, tel objet, tel mouvement perçu dans la réalité extérieure. Et ainsi, la cime indéterminée et déforée, disons, se reflétera dans les belles ondulations d'une longue phrase. Mais ces formes-là ne sont que des formes employées de manière épisodique pour signifier autre chose qu'elles-mêmes. Rien à voir avec la forme en poésie qui est a priori et vaut comme un principe d'organisation et d'invention, quels que puissent être les effets dont elle sera la cause.
J'étais sorti prendre de l'eau au puits auprès des arbres, et je fus en présence d'un autre ciel. Disparues les constellations d'il y a un instant encore. Les 3/4 du firmament étaient vides. Le noir le plus intense y régnait seul. Mais à gauche, au-dessus de l'horizon, mêlé à la cime des chênes, il y avait un amas d'étoiles rougeoyantes, comme un brasier, d'où montait même une fumée. Je rentrai et je rouvris le livre sur la table. Page après page, ce n'était que des signes indéchiffrables, des agrégats de formes d'aucun sens, bien que vaguement récurrentes. Et par-dessous, une blancheur d'abîme, comme si ce qu'on nomme l'esprit tombait là sans bruit, comme une neige. Je tournai cependant les pages. Il y a des années plus tôt, dans un train, au moment où le jour se lève, entre Princeton Junction et Newark, c'est-à-dire 2 lieux de hasard pour moi, 2 retombées des flèches de nulle part, les voyageurs lisaient silencieux dans la neige qui balayait les vitres grises, et soudain, dans le journal ouvert à 2 pas de moi, une grande photographie de Baudelaire, toute une page, comme le ciel se vide à la fin du monde pour consentir au désordre des mots. J'ai rapproché ce rêve et ce souvenir quand j'ai marché d'abord tout un automne dans des bois où bientôt ce fut la neige qui triompha dans beaucoup
ou de ces signes que l'on reçoit contradictoirement du monde dévasté par le langage. Prenez fin le conflit de deux principes, me semble-t-il, se mêler deux lumières, se refermer les lèvres de la plaie, la masse blanche du froid tombée par rafale sur la couleur, mais un toit au loin, une planche peinte, restée debout contre une grille, c'était encore la couleur, et mystérieuse comme un qui sortirait du sépulcre, et riant, « Non, ne me touche pas, dirait-il au monde. » Je dois vraiment beaucoup à Hopkins Forest. Je la garde à mon horizon, dans sa partie qui quitte le visible pour l'invisible par le tressaillement du bleu des lointains. Je l'écoute à travers les bruits et parfois même l'été, poussant du pied les feuilles mortes d'autres années, claires dans la pénombre des chênes trop serrées parmi les pierres. Je m'arrête, je crois que le sol s'ouvre à l'infini, que ses feuilles y tombent, s'enratent ou bien remontent, le haut, le bas n'étant plus, ni le bruit, sauf le léger chuchotement des flocons qui bientôt se multiplient, se rapprochent, se nouent. Et je revois alors tout l'autre ciel. J'entre pour un instant dans la grande neige. Un sac de toile mouillé dans le caniveau, c'est le tableau de Xoxis, les raisins, que les oiseaux furieux ont tellement désiré, ont si violemment percé de leur bec rapace, que les grappes ont disparu, puis la couleur, puis toute trace d'image, en cette heure de crépuscule du monde où ils l'ont traîné sur les dalles. Plusieurs années plus tard, donc, ce furent les raisins de Xoxis, les derniers raisins de Xoxis, que voici. Xoxis, malgré les oiseaux, ne parvenait pas à se déprendre de son désir, certainement légitime, peindre en paix quelques grappes de raisins bleus dans une corbeille. Ensanglanté par les becs éternellement voraces, ses toiles déchiquetées par leur terrible impatience, ses yeux brûlés par les fumées qu'il leur opposait en vain, il n'en continuait pas moins son travail. C'était à croire qu'il percevait dans les vapeurs toujours plus épaisses où s'effaçait la couleur, où se disloquait la forme, quelque chose de plus que la couleur ou la forme. Il reprenait souffle parfois, assis à quelques pas de son chevalet parmi les grives et les aigles et tous ces autres rapaces qui s'apaisaient aussitôt qu'il cessait de peindre et semblaient même presque dormir, apesantis dans leurs plumes, pépiant parfois vaguement dans l'odeur de fiente. Réfléchissant, comment se lever en silence et approcher de la toile sans que l'espace à nouveau bascule d'un coup dans les battements d'ailes et les innombrables cris rauques. Et quelle surprise aussi bien cette fin d'après-midi où, s'étant mis debout d'un bond, ayant saisi un pinceau, l'ayant trempé dans du rouge, déjà quelle bousculade d'ordinaire, quel cri de rage, il dut constater sa main en tremblait, que les oiseaux ne lui prêtaient aucune attention cette fois. C'était bien des raisins, pourtant, ce qu'il commençait à peindre. Deux grappes, presque deux pleines grappes, là où hier encore les becs infaillibles eussent déjà arraché jusqu'à la dernière des fibres où se fut pris un peu de couleur. Et pas même pourtant ces grappes lourdes, un de ces déguisements par lesquels il avait essayé parfois de donner le change à la fin du monde. Ainsi avait-il ébauché, ah, certes, naïvement, des raisins rayés de bleu et de rose, d'autres cubiques, d'autres en forme de dieu terme noyé dans sa grande barbe. En vain, en vain. Son projet n'avait pas même le temps de prendre forme. On dévorait l'idée à même l'esprit. On l'arrachait à sa main tentant d'aller à la toile, comme s'il y avait dans l'inépuisable nature des raisins striés, des raisins durs à six faces qu'on jetterait sur la table pour un défi au hasard, des grappes comme des statues de marbre pour la délectation des oiseaux. Il peint en paix maintenant. Il peut faire ces grappes de plus en plus ressemblantes, appétissantes. Il peut les couvrir de cette tendre buée qui fait si agréablement valoir contre la paille de la corbeille leur or irisé de gris et de bleu. Il en vient même, enhardi, à poser à nouveau de vrais raisins près de lui comme autrefois, et un moineau, une grive. Est-ce donc cela, une grive ? Viennent bien, à des moments, se percher au rebord de la corbeille réelle, mais ils les chassent d'un geste et cela ne reviennent plus. Longues, longues heures, sans rien que le travail en silence. Les oiseaux ont repris devant la maison leur grand tournoiement du haut du ciel, et quand ils passent près de Xoxis qui vient peindre sur la terrasse, c'est avec la même indifférence que s'il frôlait un buisson de thym, une pierre. Il y eut bien une fois cette troupe étincelante de perroquets et de huppes qui s'assembla sur les terrasses proches et cria haut et fort ce qu'il crut être de la colère. Mais l'heure d'après, sur quelques décisions, perroquets et huppes et grives étaient partis. Ah, que s'est-il passé ? Se demande-t-il. A-t-il perdu le sens de ce que c'est que l'aspect d'un fruit ? Où ne sait-il plus désirer ou vivre? C'est peu probable. Des visiteurs viennent, regardent. Quel beau raisin, disent-ils. Et même, vous n'en avez jamais peint d'aussi beau, d'aussi ressemblant. Ou bien, se dit-il encore, a-t-il dormi et rêvé? Au moment même où les oiseaux déchiraient ses doigts, mangeaient sa couleur, il aurait été assis, dodelinant du chef, dans un coin de l'atelier sombre. Mais pourquoi maintenant ne dort-il plus? En quel monde se serait-il réveillé? Pourquoi regretterait-il, comme il sent bien qu'il le fait, ces jours de lutte et d'angoisse? Pourquoi en vient-il à désirer de cesser de peindre, et même qu'il n'y ait plus de peinture? Xoxis erre par les champs. Il ramasse des pierres, les rejette. Il revient à son atelier, prend ses pinceaux. Il tremble de tout son corps quand un oiseau, rapide comme une flèche, vient prendre un des grains dans la corbeille. Il attend alors, va à la fenêtre. Il regarde les grands vols migrateurs et lire un toit, loin, là-bas, dans la lumière du soir, réduisant à poussière bleue la grappe du soleil qui décline. Étrange, cet oiseau qui était venu se poser hier au rebord de cette même fenêtre. Il était multicolore, il était gris, il avait ses yeux de rapace, mais pour tête une eau calme où se reflétaient les nuées. Apportait-il un message ou le rien du monde n'est-il que cette boule de plumes qui se hérisse quand le bec y cherche une puce? C'est quelque chose comme une flaque, le dernier tableau que Xoxis peignit, après longue réflexion, quand déjà il inclinait vers la mort. Une flaque, une brève pensée d'eau brillante, calme, et si l'on s'y penchait, on apercevait des ombres de grains, avec à leur bord vaguement doré la fantastique des coupes qui ourlent aux yeux des enfants la grappe parmi les pampres sur le ciel lumineux encore du crépuscule. Devant ces ombres claires, d'autres ombres, celles-ci noires, mais que l'on plonge la main dans le miroir, que l'on remue cette eau, et l'ombre des oiseaux et celle des fruits se mêlent.
En fait, oui, c'est bien à ce plan où la forme rencontre le sens des mots que se produit ce que d'ailleurs je suis prêt à donner pour l'événement majeur de toute la vie de l'esprit. Une conversion du regard, un passage à l'intérieur de la chose vue, qui ressaisisse ce qui risquait de se perdre dans l'extériorité inhérente à la pensée conceptuelle. Pourquoi ? Parce que l'effet de l'imprégnation d'une phrase par une forme, ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait croire, à savoir le déploiement d'une réalité de certaines sortes dans un milieu d'une autre nature, lequel ne ferait que la subir, comme la cire reçoit l'empreinte de quelque sceau. La forme dans les mots, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui les subjugue, c'est ce qui retrouve et délivre en leur profondeur, en leur intériorité même de mots, une intuition qui leur est propre, dormant encore. Ce qui permet à cette intuition ranimée d'aider l'esprit à reprendre pied à ce niveau du temps et du lieu et du hasard et de l'existence dont j'ai dit qu'il était inaccessible aux incursions du concept. Je suis obscur, mais mon propos va s'éclairer, je l'espère, quand j'aurai dit que cette puissance dormante dans la parole et que la forme réveille, c'est la matière sonore, le son inhérent au phonème. Parlons du son. En effet, la plupart du temps, dans l'écoute de la parole, on ne prête guère attention à lui, ou plutôt on ne le fait que de façon relative, pour le rôle qu'il joue à l'appui du sens des mots et des phrases. Assurément, il faut bien que du son soit entendu pour qu'on reconnaisse un vocable, qu'il est seul à différencier d'un autre vocable. Assurément, le remarque-t-on aussi quand un habile écrivain fait se succéder des S, des sifflantes, pour que dans sa parole aussi, ce soit de sinistres serpents qui sifflent sur des têtes. Mais ce son-là, comme vous le voyez, ne reste pas en lui-même. Il se laisse employer, il se fait d'emblée le moyen de la signification au sein de laquelle il se dilue. Or, il y a cependant des cas où un son nous retient en deçà ou en marge de toute signification, de tout sens. Nous avons en chacun de nous regardé à quelque moment un débris ocre rouge de feuilles mortes ou un nœud dans l'écorce du tronc d'un arbre, avec alors, et soudain, rien que en esprit, rien que la perception de cette couleur, de ce renflement, tout ce qui aurait pu, alentour, signifier, parler, proposer de la signification, faisant maintenant silence. C'est dans ces cas comme si la profondeur de l'être sensible affleurait par-dessous le voile des interprétations et des formulations que multiplie la pensée, et en cela même nous présenter un fragment du monde qui pourrait aussi bien être son tout, car il nous fait accéder à ce que la réalité a de fondamentalement un, d'encore indécomposé, là où ne s'est pas encore porté le travail de différenciation du langage. Et quelle plongée pouvons-nous faire alors, si nous voulons bien, dans les eaux, sans fond ni surface, de ce qui se découvre ainsi. De même, dans le registre des sons, il nous arrive d'entendre un son en tant que son, et rien d'autre, de percevoir un son qui alors n'est plus un signe, mais lui aussi un fragment à nu de la substance du monde. Et ce peut être le cri d'un oiseau dans la nuit, ou de parmi des branches, dans un vallon solitaire. C'est comme cela que retentit la voix du corbeau dans le poème de Poe, effaçant toutes les significations dans le grimoire qu'essayait de déchiffrer le poète. C'est comme cela que sonne celle du rossignol dans l'ode de Keats, entraîné et par elle dans une extase. Oui, nous pouvons entendre le son dans tel ou tel mot de la langue, cela nous est arrivé à tous de l'appréhender un instant, dans l'écoute d'un nom de lieu, par exemple, qu'il doue alors de mystère. Pensez au début de Sylvie, le grand récit de Nerval. Nous pouvons cela, et si nous ne le faisons pas plus souvent, c'est que dans le discours universel de la prose, nous n'avons guère le temps de nous arrêter au son du mot, à la manifestation pure du son du mot, cette matière sonore étant constamment emportée par le flux de la signifiance. Mais c'est alors que la forme intervient en poésie, pour dégager dans les mots le son et permettre à ce son de révéler ses pouvoirs de façon tout aussi totale que dans le cas du nœud dans l'écorce ou du cri du corbeau que j'évoquais tout à l'heure. Car forme et son, forme comme telle, non signifiante, et son au-delà de la signification, cela ne fait qu'un tout qu'il est soudain possible de percevoir comme tel. Qu'il y ait rythme du fait du vers, rythme qui naît de la matérialité du son et nullement de son sens, et cette sonorité sera entendue. Qu'il y ait perception du son en retour, et va être possible le déploiement de la forme. Forme et son sont donc associés l'un à l'autre dans un échange sans fin, dont il serait même vain d'espérer retrouver le premier moment dans l'esprit. Probablement, ils sont nés ensemble au premier jour de l'humanité qui a d'emblée chanté autant que parlé, comme Rousseau l'a compris. La forme, en poésie, c'est donc, vous le voyez, aussi bien et tout de suite le son, mais le son comme toute autre chose que ce qu'il est dans le discours de la signification, où il ne vaut que comme codage du sens des mots. Affleurement de la profondeur du monde, fragment qui tout aussi bien est le tout, infini silencieux, noué sur soi, mais irradiant sa lumière, le son est maintenant très précisément cette présence pleine que je reprochais au concept de faire oublier. Et là est la poésie. La forme porte le son, nous le fait entendre, et de par cette plénitude manifestée, le son qui est ainsi dans le vers l'un des faits du monde décolore dans l'esprit du lecteur du poème les points de vue conceptuels. Il conteste la prétention des concepts à monopoliser l'approche de l'être. La poésie, cette forme portant le son, c'est ce qui affaiblit l'emprise du concept sur la parole, c'est ce qui dénonce le péril dans lequel le concept nous place.